Bienvenue dans Langue de Prune, votre émission sur la langue et la société. Reportages, débats, interviews et vos chroniques sympathiques et éclectiques. D'ici et d'ailleurs, à qui la faute ? L'étymologie en folie. À Langue de Prune, on n'a pas la langue dans nos poches. Tous les derniers mardis du mois, de midi à 13h.
Bonjour et bienvenue dans Langue de Prune, l'émission qui vous parle de la langue, du langage, de tout ce qui gravite autour. Je suis Axel, je vous présenterai l'émission d'aujourd'hui accompagnée d'Azilis.
Bonjour.
Et de Morgane.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons évoquer avec vous la langue des signes. Alors oui, c'est pas le sujet le plus simple pour la radio vu qu'on se voit pas. L'année dernière, on avait réussi à vous parler de l'écriture. Donc, je pense qu'on va s'en sortir. Et je le dis tout de suite parce qu'on va utiliser l'acronyme tout au long de l'émission, LSF. C'est la langue des signes française et on va se concentrer principalement là-dessus. Je commencerai par vous parler donc de l'histoire de la LSF, histoire que de vous familiariser avec la chronologie. Nous ferons après une pause musicale. Azilis utilisera l'étymologie en folie pour nous parler de quelques signes de la LSF. Ensuite, Azilis nous parlera du travail d'interprète de la langue des signes. Et après une autre pause musicale, ce sera au tour de Morgane. Et nous parler d'une faute qu'on connaît tous, malgré que ça n'en soit pas vraiment une. Oups, j'en ai trop dit. Et Morgane nous emmènera ensuite à la rencontre des langues des signes à l'étranger. Et après une dernière pause musicale, je vous ouvrirai l'appétit avec notre chronique d'ici et d'ailleurs, placée parfaitement pour le dessert. Mais commençons donc par l'histoire de la langue des signes française. La langue des signes française, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est assez ancienne. On parle même de VLSF pour désigner la vieille langue des signes française, dont les sources écrites les plus anciennes datent de la fin du XVIIIe. Comme l'ancien français a évolué pour devenir le français moderne, la VLSF a évolué pour devenir la LSF utilisée aujourd'hui. C'est vraiment des équivalents. La VLSF est un langage à part entière, avec sa propre grammaire, qui est différente du français parlé, de l'ancien français parlé. Et elle est principalement directement transmise entre personnes sourdes. C'est pour ça qu'en fait, on a très peu de traces pendant la majorité de son existence, en fait. La première source écrite qui nous permet de connaître la VLSF du point de vue d'une personne sourde, ça a été écrit en 1779 par Pierre Desloges. Alors attention, c'est un titre à rallonge comme beaucoup de livres de l'époque. Observation d'un sourd et muet sur un cours élémentaire d'éducation de sourds et muets. C'est une œuvre assez importante parce qu'il décrit la communauté sourde parisienne, les organisations qui étaient déjà en place. C'est bien loin d'une image d'isolement qu'on pourrait avoir des personnes sourdes de l'époque. Et c'est aussi le début de la culture sourde, en fait, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il y décrit aussi précisément plusieurs signes et le langage de manière générale. Par exemple, il va décrire le signe pour dire pape et d'autres mots qui sont très importants à l'époque, peut-être moins utilisés aujourd'hui. Il écrit ce livre en fait pour défendre la langue des signes, car certains éducateurs, comme un certain abbé Deschamps, qui clamerait apparemment que la langue des signes n'est pas une vraie langue et donc ce qu'il utilisait pour enseigner aux enfants sourds. Et du coup, pour citer Desloges, comme un Français qui voit sa langue rabaissée par un Allemand qui ne connaît que quelques mots français, j'ai pensé que j'étais obligée de défendre ma langue contre les fausses accusations de cet auteur. Donc c'était vraiment un ouvrage engagé, on peut dire. Et en fait, cette citation, ça souligne une réalité. C'est l'influence qu'avaient les enseignants sur l'enseignement des jeunes sourds, même à cette époque, et du coup, sur leur langage. Charles-Michel de l'Épée, qu'on appelle l'abbé de l'Épée, que j'appellerai comme ça après. C'est un de ses enseignants. Il aura une influence importante sur la VLSF. En fait, lui, il a créé en 1771 la première institution éducative gratuite pour les sourds à Paris. C'est une sacrée bouchée à sortir. Et il a pris connaissance de la langue des signes en observant deux jumelles l'utiliser pour communiquer. Mais il a un point de vue extérieur et un peu rabaissant dessus, parce qu'il ne reconnaît pas qu'il y a une grammaire propre, comme je disais, qui est différente du français. En fait, lui, du coup, il va créer des signes qu'on dit méthodiques pour représenter, par exemple, les articles, les auxiliaires, les terminaisons de verbes, pour vraiment calquer la grammaire française et en fait faire rentrer la langue des signes dans le moule de ce qu'il a de préconçu, si vous voulez. Et du coup, ces modifications, ça va créer un hybride, un français signé en fait plus qu'une langue propre. Et concrètement, les élèves vont l'utiliser en classe, mais continuer à utiliser la VLSF en privé. C'est un peu ce qu'on retrouve avec les élèves qui sont bilingues. Par exemple, quand on a eu tout ce qui était interdiction des langues régionales à l'école, on en a déjà parlé dans une émission précédente, mais aussi, par exemple, les enfants issus de l'immigration qui ne vont pas parler la même langue chez eux et à l'école. On retrouvera par la suite, à cette époque, en fait, des recueils, des signes utilisés. Il y a eu des dictionnaires, aussi des iconographies qui vont comprendre du coup, des images pour reprendre les signes. Et en fait, à cette période-là, commence ce qu'on pourrait appeler une querelle éducative entre les oralistes et les signants. Donc les signants, c'est, comme je viens de décrire, l'utilisation de la langue des signes à l'école, même en faisant des modifications. Et l'oralisme, c'est une méthode pour enseigner la langue orale, donc là, du coup, le français, aux personnes sourdes, les encourager à parler, parfois en appuyant avec des signes. Mais l'idée, c'est vraiment en fait, de les faire parler français comme quelqu'un en fait, qui n'est pas sourd. Et vraiment, encore une fois, les faire rentrer le plus possible dans le moule et qu'ils puissent s'intégrer en fait, complètement. L'abbé de l'épée, donc, après ce que je vous ai dit, vous vous en doutez, lui, il soutient le maintien de la langue des signes. En fait, notamment, il dit que passer son temps, son énergie, surtout pour les enfants, pour apprendre à parler, c'est du temps, de l'énergie en moins pour apprendre d'autres sujets, la science, l'histoire, etc. Il s'oppose par exemple à Jacob Roderick Perrer, qui lui soutient l'oralisation. L'oralisme qui finit par faire son entrée à la faculté de médecine en 1800. Et au début, les deux méthodes en fait cohabitent, sont recommandées. Petit à petit, l'oralisme est de plus en plus mis en avant aux dépens de la langue des signes. Et ça jusqu'au congrès de Milan en 1880. En fait, ce congrès-là, c'est le troisième congrès international pour l'amélioration du sort des sourds. Ça réunit principalement des spécialistes de l'enseignement des sourds italiens et français. Italiens et français, tout simplement à cause de la position géographique en question. Il y avait quelques autres personnes européennes, mais c'était vraiment principalement italien-français. Et en fait, ce qui est assez important de souligner, c'est que ce congrès, donc il y avait un peu plus de 250 participants, il y avait seulement 3 personnes sourdes qui étaient présentes, 2 sourds français d'ailleurs, et aucun interprète n'avait été prévu pour eux, même si tous les débats, ils étaient traduits en italien, en allemand, en anglais, en français. Mais du coup, rien pour que les 3 personnes concernées puissent comprendre. En fait, c'était un congrès qui était organisé à l'initiative des défenseurs de l'oralisation. La conséquence de ce congrès, ça a été l'adoption de l'oralisation exclusive dans une grande partie des écoles d'Europe. Et ça a été un impact assez rapide en France, parce que le congrès avait lieu en septembre. En octobre, c'était la rentrée. Et ça tombe bien, parce que le ministère de l'Intérieur, parce que c'était eux en fait, qui s'occupaient de l'éducation des enfants sourds à l'époque, c'est assez surprenant, et ben, ça fait depuis 1879, ils voulaient mettre ça en place dans toutes les écoles. Et du coup, le congrès de Milan, ça a donné un peu une validation pour eux, une justification pour mettre ça en place. Des conséquences vraiment importantes, parce que par exemple, tous les professeurs sourds sont considérés comme n'étant pas aptes à enseigner la parole, ils sont mis à la retraite, ils sont licenciés, et donc du coup, il y a vraiment un écartement parole, c'est pas le meilleur mot, mais de la présence des personnes sourdes dans l'éducation des enfants sourds. Et ça, même si, par exemple, dès 1900, il y a des professeurs qui rapportent, qui observent que les élèves parlent encore entre eux en langue des signes, l'utilisant en dehors du cadre scolaire, par exemple aussi pendant les activités sportives. Mais du coup, l'enseignement utilisant uniquement l'oralisation, ça va durer en gros pendant un siècle, plus ou moins. C'est vers les années 70-80 que les choses vont commencer à changer en France et surtout à l'étranger. Ça va venir de l'étranger pour arriver en France. C'est un mouvement qu'on appelle le réveil sourd. Ça va commencer par les États-Unis. Je ne l'ai pas précisé, mais pendant le congrès de Milan, il y avait une petite faction de gens qui étaient contre l'oralisation et c'était beaucoup des professeurs anglais. Et donc, du coup, ça s'est importé après aux États-Unis. En fait, il y a des linguistes, donc en 1970-80, qui commencent à étudier la langue des signes, qui mettent déjà en avant son existence, hein, parce que ce n'était pas forcément très connu à l'époque, et surtout l'étudient comme une langue normale, ce qui est révolutionnaire à l'époque. C'est surtout le linguiste William Stokoe, qui est américain, du coup, qui est très connu pour ça, c'était son œuvre principale. On a une association en France qui est fondée en 1980, un peu suite à ça, et du coup au mouvement, ça fait un effet boule de neige si vous voulez, qui part des États-Unis, qui s'appelle l'Association française de langue pour une éducation. Donc du coup, en fait, qui essaie de mettre en avant la LSF dans l'enseignement, c'est par ce travail d'association, mais aussi par la culture, par exemple le théâtre, que la France est sensibilisée à la culture sourde et à la LSF. Une personne importante en France qu'on peut citer dans le côté culturel du mouvement, c'est Emmanuelle Laborie, qui est actrice et chansigneuse, qui est récompensée en 1993 du Molière de la Révélation théâtrale pour son rôle dans Les Enfants du Silence. Ce travail associatif et du coup, culturel, après, sur le long terme, ça va donner lieu à un amendement de la loi Fabius en 1991. Pour citer, dans l'éducation des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes français, et une communication orale et de droit. Et après le 11 février 2005, la LSF est reconnue comme une langue à part entière dans la loi. Voilà. On va maintenant vous laisser digérer un peu toutes ces informations historiques et justement en parlant d'histoire. Pour notre première pause musicale, on n'avait pas trop d'idées, du coup, on voulait faire des petites chansons dédicacées pour nos deux animateurs, enfin notre animateur et l'animateur passé qui ne sont pas là. La première, du coup, histoire, on va bien sûr la dédier à Louis. C'est une chanson qu'il aime beaucoup. Je vous laisse l'écouter.
Blêmis dans le matin si calme, sous l'espoir endormi, mon cœur insoumis clame. J'étais un rêveur, j'irai dans les si je n'ai pas pu trouver les leurs. L'honneur qui blêmit au cœur de la mitraille, si le doute me saisit quand la peur me cisaille. S'en souvient, l'avenir nous appartient. Oh, oh, oh. Ton cœur
nous sourit dans le matin si clair.
Vous êtes toujours sur Prune 92 FM et toujours dans l'émission Langue de Prune. Azilis va maintenant nous parler de quelques signes pendant sa chronique Étymologie en folie.
L'étymologie en folie.
Alors, je vais vous parler de l'origine de quelques signes en LSF, en langue des signes française. Donc, en LSF, l'iconicité est très importante. L'iconicité, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de signes qui reproduisent gestuellement des réalités du monde, des choses qui existent. Par exemple, le signe pour maison, c'est les deux mains qui forment un toit. Pour le signe poisson, c'est la main mise à plat qui va vers l'avant en zigzagant, un peu comme le poisson qui nage. Et par contre, il y a des signes dont l'origine n'est pas aussi claire à trouver. Il y a notamment des signes qui sont arbitraires, ça veut dire qu'ils n'ont pas de rapport avec la réalité. Et il y a Yves Delaporte qui a beaucoup étudié cette question de l'étymologie des signes, et c'est là que j'ai trouvé ce que je vais vous dire. Même pour les signes qui se calquent sur la réalité, le rapport entre le signe et la réalité n'est pas toujours hyper clair, car le monde change, tout simplement, la société change. Par exemple, le signe scolaire, en fait, on montre les boutons de l'uniforme, et ça n'a plus trop de sens maintenant, puisqu'on n'a plus d'uniforme. Pareil pour le signe bourgeois. En fait, on a le pouce et l'index qui sont un peu écartés et qu'on met au niveau du cou. Donc aujourd'hui, on ne voit pas trop pourquoi. Mais à l'époque, c'est parce qu'à l'époque, au 19e siècle, la cravate, c'était un gros tissu qu'on mettait autour du cou et les bourgeois portaient des cravates. Donc aujourd'hui, le lien avec la réalité apparaît un peu obscur pour ces signes-là, mais il était évident quand les signes sont nés. Et puis, il y a un autre problème aussi, c'est quand c'est des concepts abstraits, c'est beaucoup plus difficile de comprendre d'où viennent les signes. Je vais prendre l'exemple des mois de l'année. Donc, il y a certains mois qui tirent leur signe des constellations du zodiaque. Ça m'a beaucoup plu d'apprendre ça. Donc, c'est-à-dire que le signe va tirer son nom de l'animal ou l'objet qui donne son nom à la constellation dans laquelle le soleil entre pendant ce mois. C'est le cas, par exemple, du signe septembre, qui vient du signe pour balance. Donc le signe pour balance, on tient les chaînes du plateau de la balance avec le pouce et l'index, et on monte et on baisse. Et le signe pour septembre, eh bien, on va mettre une main au-dessus de l'autre, et on va rapprocher, puis écarter les mains. Il y a d'autres signes pour les mois qui vont venir des rituels et des fêtes qui ponctuent un peu l'année, que ce soit des fêtes religieuses ou civiles. Pour le mois de janvier, il y a un signe répandu qui est de mettre la main sur les deux joues, un peu comme une bise, parce que le mois de janvier, c'est un peu le mois des baisers, on se dit la bonne année. Et puis évidemment, les signes des mois se calquent sur le cycle des saisons de la nature. Le signe pour le mois de juin, c'est une forme stylisée du geste qui constitue à se gratter la gorge, parce que il fait chaud en juin, alors on a un petit peu soif. Et puis, ce qui rend aussi difficile parfois de trouver l'origine d'un signe, c'est qu'il y a beaucoup de signes qui sont influencés par la lettre initiale du mot en français. Ça, c'est dû au fait que, comme le disait Axel, il y a eu beaucoup d'enseignants et d'enseignantes entendants. Et c'est eux un peu qui ont apporté ça. C'est beaucoup le cas pour les prénoms. Dans la communauté sourde, les personnes ont généralement un nom officiel qui s'écrit avec l'alphabet latin et un nom signé. Et donc très souvent, dans leur nom signé, va y avoir l'initiale du prénom associée à un mouvement, etc., enfin d'autres critères. Et puis parfois, il y a aussi certains mots qui comportent une autre lettre du mot en français quand elle est rare. Par exemple, les signes pour prix et exemple se font à partir du signe qu'on utilise pour la lettre X. Et puis même quand l'étymologie nous paraît simple, eh ben, elle n'est pas forcément, parce qu'il y a de faux amis. Par exemple, le signe pour « quelle heure est-il ?», c'est on frappe son poignet avec son index, donc on a vraiment l'impression qu'on est en train de montrer sa montre, sauf que le signe existait déjà au XVIIIe siècle et qu'il n'y avait pas de montre bracelet. Et en fait, ça, c'est une référence au marteau qui frappe le timbre d'une horloge. Pareil pour le signe été, on a l'impression qu'on essuie la sueur sur son front. Et en fait, c'est en rapport avec la couronne de laurier de la distribution des prix qu'on faisait au mois d'août. Donc rien à voir. Comme quoi, il faut se méfier des apparences. Et on rappelle que la LSF, c'est pas du mime.
Merci Azilis. Tu vas maintenant reprendre la parole pour nous parler du travail d'interprète.
Merci beaucoup Axel. Donc oui, je vais parler un petit peu d'interprétation en langue des signes. Par contre, je ne suis pas interprète et je ne suis pas sourde, donc je risque de dire des bêtises. Évidemment, ça aurait été mieux qu'on puisse faire venir des personnes concernées. Là, on a été un peu prise par le temps.
Et les manifs.
Oui, qui nous demande beaucoup de temps. On y passe beaucoup de temps en manif, c'est vrai. Et donc, du coup, ce travail d'interprète, il est très important pour que la communauté sourde ne soit pas isolée. pour les échanges directs, mais aussi pour les productions culturelles, d'autant plus qu'un certain nombre de personnes sourdes ne maîtrisent pas forcément assez bien le français écrit pour communiquer efficacement. Et la loi sur le handicap de 2005 impose que les services publics proposent une transcription écrite ou une traduction à LSF, mais faute de moyens, c'est difficilement mis en place dans les services publics. Mais avant cette loi, c'était encore pire. On va faire un petit retour sur l'histoire de l'interprétation en langue des signes. On trouvait déjà des interprètes au XVIIIe siècle. C'était souvent des instituteurs ou des précepteurs individuels. Il y avait aussi des sourds qui étaient interprètes et qui passaient par le français écrit, mais on ne reconnaissait pas forcément leur expertise. Par exemple, au XIXe siècle, les sourds qui voulaient se marier ensemble, juridiquement, il fallait qu'il y ait une personne qui puisse valider leur consentement, donc un ou une interprète, et ça ne pouvait pas être une personne sourde. C'était forcément une personne entendante. Et puis, tu parlais, Axel, du congrès de Milan en 1880, qui du coup était à fond pour l'oralisation. Bah, la conséquence, c'est qu'il y a eu moins de locuteurs de LSF, de langue des signes française, et donc du coup moins d'interprètes. Et c'est dans les années 70, quand du coup, comme tu le disais, la communauté sourde a beaucoup lutté pour la reconnaissance de la LSF comme une langue à part entière, que les interprètes se sont professionnalisés. Avant, c'était surtout des bénévoles, et là, il y a commencé à y avoir des formations et vraiment une reconnaissance du métier. Mais on n'a toujours pas assez d'interprètes aujourd'hui pour toutes les situations où leur présence est nécessaire. On en trouve par exemple dans les conférences, pour traduire des conférences, des discours, des prises de parole, comme à l'Assemblée nationale, mais aussi dans des situations où on y penserait moins. Par exemple, pour faire de la liaison, pour un rendez-vous professionnel, social, médical, juridique. Pour les soins et les procédures judiciaires, elles doivent être accessibles à tout le monde, mais ce droit est difficile à faire respecter, parce que les services publics n'ont pas assez de moyens. Et pourtant, l'enjeu est assez énorme. Comment est-ce qu'on peut décider, par exemple, si on veut accepter une opération, si on ne comprend pas bien les implications que ça a? Ou comment est-ce qu'on peut faire pour porter plainte quand personne ne nous comprend au commissariat? Les interprètes aussi, interprètes traduisent lors de réunions, dans des entreprises, des associations. Là, c'est vraiment très intense, parce que l'interprète doit s'adapter à beaucoup de locuteurs. C'est la même chose pour les formations. Donc très souvent dans ces cas-là, il va y avoir des temps de pause ou si ce n'est pas possible dans la réunion, plusieurs interprètes vont se succéder. Et puis il y a aussi des situations plus dans le domaine culturel, de traduction d'une vidéo en LSF, de visite de musée, de traduction de spectacle. C'est pour l'instant un peu plus rare. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans des situations où vous avez vu des interprètes, que ce soit en vrai ou à la télé, ou alors des situations où vous êtes dit « Ah bah là, ce serait bien qu'il y en ait un ou une ».
Ben, y a eu quelques cas de concerts aux États-Unis où il y avait des interprètes qui étaient là et justement qui étaient assez remarqués parce que ben, déjà tout simplement maintenant les gens filment quand ils sont en concert, donc il y avait c'était filmé et parce que les interprètes faisaient très bien le travail et parce que c'était des chansons un peu provocantes on va dire et donc du coup forcément c'est un peu marrant de regarder l'interprétation qui peut être faite de ces sens-là des paroles on va dire.
Moi, je pense que c'était quand je faisais, quand j'ai passé ma PSC1 quand j'étais jeune. quand j'avais genre 13 ans, j'ai passé ma PSC1 et maintenant que j'y réfléchis, c'est un truc tout bête qu'on nous demande tous de passer quand même, hein, au collège et tout. Souvent, on nous propose cette formation et je trouve que c'est quelque chose de très important. Et c'est rare, enfin, j'ai jamais vu une PSC1 signée. Alors certes, il y a les gestes concrets de la PSC1 qui sont là, mais les explications des choses, enfin, il y a des choses qui ont besoin d'être expliquées entre les deux, pas seulement les gestes, comment réagir, garder son calme, appeler le 18. Mais après, je trouve qu'il y a des choses qui s'améliorent. On a un numéro maintenant pour les sourds et malentendants de secours. Donc ça, c'est vraiment bien. Et c'est quelque chose qui est aussi utilisé pendant les attentats, pendant des attaques terroristes. Maintenant, on appelle ce numéro-là parce que c'est exclusivement par SMS. Et ça c'est quand même à noter. C'est un gros, gros progrès qui n'est pas très, très connu. Et c'est pour ça que c'est important de le rappeler que ça existe. Donc voilà, petit message à tous ceux qui nous écoutent. Il y a un numéro qui existe. Alors là, forcément, bien évidemment, je l'ai oublié. mais voilà, mais je trouve que c'est quelque chose pour le secours. En tout cas, et on devrait avoir plus d'interprètes.
C'est vrai qu'il y a vraiment plein de situations différentes, donc c'est assez difficile aussi de s'adapter à tout ça parce que c'est pas les mêmes codes selon les situations, c'est pas le même lexique non plus. Il y a un vocabulaire spécialisé, c'est pas la même chose si on traduit un concert, une séance de secourisme ou une visite dans un musée d'art moderne. Et bien sûr, cette séance d'interprétation, elle se prépare, mais en fait, on ne peut pas prévoir tout ce qui va se passer. Donc parfois, on est confronté, parfois les interprètes sont confrontés à des mots qu'ils ou elles ne connaissent pas. Donc dans ces cas-là, les interprètes peuvent les épeler, par exemple, avec la dactylologie. Ça veut dire qu'il y a un signe pour chaque lettre, donc c'est assez long. Donc parfois, elle ou il utilise des périphrases pour expliquer ce que ça veut dire. Je sais que j'ai une interprète qui me racontait qu'elle, elle essayait de créer en fait un signe pour le mot qu'elle ne connaissait pas. Donc d'abord, elle l'expliquait aux personnes avec elle et ensuite, elle réutilisait ce signe-là pour gagner du temps. Et en effet, il y a plein de techniques d'interprétation que je ne maîtrise pas du tout. Mais à ce que j'ai compris, il y a un peu deux grands types. Il y a l'interprétation consécutive et l'interprétation simultanée. L'interprétation consécutive, ça veut dire que l'interprète attend que le ou la locutaire ait fini de parler. Donc pendant que la personne parle, l'interprète analyse ce qui est dit, prend des notes. Ce n'est pas la méthode la plus utilisée, parce que ça veut dire qu'il faut être très concentré, bien mémoriser ce que la personne dit. Et c'est assez difficile de prendre des notes tout en regardant la personne qui est en train de signer. On loupe des choses, quoi. Donc la méthode qui est plus utilisée, c'est celle qui est simultanée. Donc là, ça se fait en même temps, même s'il y a toujours un petit décalage de quelques secondes. Parfois, il y a un mélange aussi un peu des deux méthodes. Et comme je disais tout à l'heure, il y a parfois besoin d'inventer un signe quand il n'existe pas encore en LSF ou parce que l'interprète ne connaît pas le signe. Dans ces cas-là, il y a parfois des emprunts à d'autres langues. Ça peut être d'autres langues des signes, mais aussi au français. Donc ces emprunts, ils peuvent se faire avec la dactylologie ou avec la traduction littérale. Et parfois, c'est des signes qui sont juste inventés de toutes pièces. Ces signes-là, ils vont être provisoires, ils vont servir pour la situation, mais ils ne vont pas forcément être utilisés après. Donc c'est un travail assez particulier, interprète LSF, et toutes et tous n'ont pas le même statut. Il y en a qui sont salariés dans des institutions de jeunes sourds ou des services d'interprétation par exemple. Ça peut être quelque chose d'assez pérenne, de permanent, mais ça peut aussi être occasionnel en fonction des besoins. Donc là, c'est quand même des situations assez précaires. Et puis il y a aussi pas mal d'interprètes qui travaillent en libéral à leur compte. Il y a des horaires variables et très étendus. Il faut parfois participer à la traduction de tout un congrès sur tout un week-end, sans être forcément en permanence, mais ça bloque tout un week-end. Il y a parfois traduire des réunions le soir, etc. Donc c'est des horaires quand même assez contraignants. Ça demande, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de capacité d'adaptation. Et c'est très fatigant. Ça demande d'être extrêmement concentré, d'avoir de bonnes capacités d'analyse, de mémoriser, traduire, tout ça un peu à la fois. C'est un métier qui est donc pas très reconnu, parce que c'est une langue de toute façon qui n'est pas assez reconnue. Et c'est un métier qui n'est pas assez rémunéré par rapport au niveau d'études. Il y a beaucoup de gens qui ont carrément un bac plus 5. Et il n'y a pas assez d'interprètes, comme tu le disais Morgane, notamment dans le service public. Et donc tant qu'il n'y en aura pas plus, on ne pourra pas réellement mettre à la même place sourd-sourde, entendant-entendante. Donc il faudra passer aussi par une personne pour échanger avec quelqu'un, cette personne elle est forcément un peu isolée, un peu mise à part. D'où l'intérêt aussi d'étendre l'enseignement de la langue des signes française. Donc là, j'ai plutôt parlé d'une traduction un peu pratique, mais il y a aussi la traduction des œuvres artistiques. Et dans ces cas-là, les traductions, c'est elles aussi des œuvres d'art. Il y a le chant signe, par exemple, dont tu parlais, Axel, qui est la traduction d'une chanson en langue des signes. Donc, c'est une vraie discipline artistique à part entière qui se rapproche un peu de la danse. Il y en a une forme un peu particulière qui, là, n'est pas la traduction d'une chanson qui existe déjà. C'est une chanson qui est créée directement en langue des signes française et la musique qui va être mise par-dessus ne se fait pas par rapport aux normes de la musique des personnes entendantes, mais est liée à des critères de la culture sourde. Et donc là, ça ne va pas être une traduction. On va écouter un extrait du morceau 5 éléments du groupe Je vis seul.
Merci Azilis. Pour notre deuxième pause musicale, nous allons écouter Sarah May, Le cœur a ses raisons, et celle-là, c'est pour toi, Guillaume.
Disons sur le rinté, j'ai les corps déguisés. J'aurais pu tout abandonner, avec le recul, je reconnais les sourires déguisés. Pour maman, je vais garder ma dignité. Pour sortir de l'ombre, y'a que la vérité. Seul dans ma bulle, je polis ma pierre comme diamant brut. Ma passion mène ma raison. C'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons. La raison ne connaît pas. Ma passion mène ma raison.
je connais, tu fais mes âmes. On est sur le rinté, rincé. Ok, là, on conduit juste, mais retiens tes larmes, retiens tes larmes, retiens tes larmes. Ok, là, je connais, tu fais mes âmes. On est sur le rinté, rincé. Ok, là, on conduit juste, mais retiens tes larmes, retiens tes larmes, retiens tes larmes. Ça fait royal dès le début. On a surmonté les obstacles un à un. Donne-moi l'idée d'entrer dans la danse. Masque les apparences, fais pas dans l'arrogance. Toutes nos manigances. Si tu me connais, tu sais que je suis contre la justice. Je veux qu'on se batte ensemble pour soi inclusif. Seul dans ma bulle. Pour avancer la baffe, faut du recul. Ma passion mène ma raison. C'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons. La raison ne connaît pas. Ma passion mène ma raison. C'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons. Le cœur je connais, tu fais mes âmes. On est sur le rinté, rincé. Ok, là on conduit juste, mais retiens tes larmes. Retiens tes larmes, retiens tes larmes. Le cœur je connais, tu fais mes âmes. On est sur le rinté, rincé. Ok, là on conduit juste, mais retiens tes larmes. Retiens tes larmes, retiens tes larmes.
La vie, la vie m'a béni. Dieu merci, je suis en paix.
Passion mène ma raison.
Passion mène ma raison.
C'est le cœur qui guide mes pas.
Cœur qui guide
on dit que
pas.
Le cœur a ses raisons.
Cœur a ses raisons.
Que la raison ne connaît pas.
Que la raison ne connaît pas.
Ma passion mène ma raison.
Passion mène ma raison.
C'est le cœur qui guide mes pas.
Cœur qui guide
on dit que
pas.
Le cœur a ses raisons.
Cœur a ses raisons.
Que la raison ne connaît pas.
Que la raison ne connaît pas.
Retrouvez Langue de Prune en podcast sur prune.net.
Vous êtes toujours sur Prune 92 FM et toujours dans l'émission Langue de Prune. Et c'est maintenant à Morgane de nous présenter À qui la faute ?
À qui la faute ?
Pour la chronique À qui la faute de ce mois de mars, je me suis dit qu'on allait se pencher sur un gros dossier. L'expression « malgré que ». Alors, on va déjà commencer par un tour de table. Je m'adresse donc à vous, les filles. Comment utilisez-vous cette expression, si vous l'utilisez ?
J'utilise pas trop, mais moi, j'accepte de l'entendre dans toutes les situations. Si tu nous entends qu'on n'a pas un fois mal l'utilisé.
C'est vrai que je pense pas que c'est une expression que j'utilise beaucoup non plus.
Oui.
Bon. Non, je pense pas. Je sais pas.
Alors c'est vrai que ça fait débat, les puristes diront qu'on n'utilise jamais au grand jamais les résiquets malgré que, et pourtant. En fait, il y a beaucoup d'avis différents en fonction des dictionnaires et des académiciens. Et oui, l'Académie française a encore et toujours mis son petit grain de sel. Il se trouve que malgré que est une vieille expression qui a bien été utilisée il y a des siècles de ça, mais pas n'importe comment. Et oui, la règle était que malgré que pouvait s'utiliser si un pronom personnel sujet et le verbe avoir au subjonctif le suivaient. Alors là, on rentre vraiment dans les détails de la langue française. Pour vous donner un exemple, dans Carmen de Prosper Mérimée, il y a cette célèbre et magnifique réplique « Il faut bien que je vous aime malgré que j'en ai, car depuis que vous m'avez quitté, je ne sais ce que j'ai. » C'est beau, hein ? Et là, et là, et seulement là, on autorise l'usage de malgré que. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que c'est autorisé seulement dans ce cas-là ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'en le disant de cette façon, l'expression équivaut à « contre mon gré ». Donc en fait, si on décompose l'expression « malgré que », on a « mal », M-A-L, suivi de « gré », G-R-E, accent aigu. Comme au gré du vent, par exemple. En fait, on revient vraiment à la base, à l'étymologie de ce mot. Certains disent même qu'il faudrait carrément séparer le mot pour ne plus confondre et retrouver le sens véritable de l'expression. Mais bon, ça c'est l'avis des gens qui n'ont que ça à faire et qui ne veulent pas évoluer avec leur temps. Alors au fur et à mesure du temps, c'est devenu un peu confus, mais l'académie, les écrivains et à peu près tout le monde s'accordent à dire que malgré que, plus tout autre verbe qui n'est pas avoir au subjonctif, ça marche pas. Alors c'est vrai que ça porte à débat parce qu'on peut voir cette formule dans des articles de l'équipe, par exemple, il y a quelques semaines, qui nous a sorti un « malgré que certaines personnes ont tout fait pour que ». Bon, perso, je suis pas convaincue. Je trouve que ça sonne un peu faux à l'oreille. Il y a en revanche un usage de l'expression qui ne pose absolument pas problème. C'est malgré lui, elle ou moi. Alors encore une fois, ça se traduit par contre son gré ou mon gré. Finalement, pour savoir si ce qu'on est en train de dire est correct ou non selon l'Académie, on peut juste déconstruire l'expression et vérifier si elle correspond à ce que l'on veut dire. Alors comment faire ? On se retrouve dans une impasse si on veut exprimer le sens « malgré que ». La solution la plus simple, c'est donc de rajouter le petit « le fait » pour alors dire « malgré le fait que ». Et là, ça fonctionne, tout le monde est d'accord, tout le monde est content. Sinon, on peut trouver un équivalent à l'expression comme « bien que »,« quoique », »,« encore que ». Bref, les possibilités sont infinies, alors ne soyez pas timide, élargissez votre vocabulaire. Bon, après, on va être honnête, les règles du français changent constamment. Et les journalistes et écrivains font bien ce qu'ils veulent à partir du moment où ça leur plaît. Et rassurez-vous, on ne vous jettera pas des tomates si vous dites malgré que. La preuve en est, certains grammairiens et académiciens comme Cocteau ou Vigny soutenaient l'utilisation de malgré que.
Merci Morgane. Et maintenant du coup, tu vas nous parler des langues de signes à l'étranger.
Eh oui, aujourd'hui on parle ensemble de la langue des signes à l'international. Alors c'est un sujet assez complexe car il n'existe en fait pas de langue des signes internationale. En tant qu'entendante, il est donc assez difficile de parler de la langue des signes parce que clairement, je connais très peu de choses, comme l'avait dit Acilis, et encore moins sur la langue des signes internationale. Alors j'ai dû faire mes petites recherches et je suis tombée sur un rapport absolument passionnant et super instructif qui s'appelle « La langue des signes internationale, aperçu historique et préliminaire à une description ». Encore une fois, un titre très court et très simple, de Nathalie Montélière. Mes recherches sont donc clairement basées sur ce texte et il m'a semblé important de le dire avant de commencer. Merci Nathalie. Il existe plusieurs langues des signes en fait. Donc ces langues ont été créées en fonction de chaque pays. Mais le concept de LSI, langue des signes internationale, est complexe. Il y a bien eu quelques tentatives d'inventer une langue des signes commune à toutes et à tous pour faciliter la communication, mais elle n'a pas fonctionné. C'est donc en 1850 qu'on se rend compte du caractère international de la langue des signes que l'on appelait langage mimique à l'époque. En fait, au sein de la communauté des sourds, il est plus facile de se comprendre malgré des signes différents pour certains mots en fonction de son pays d'origine. Malgré tout, ces petites différences peuvent être gênantes pour les sourds qui ne connaissent peut-être pas bien les signes des autres langues. Tout ça peut vous amener à des malentendus très problématiques lors de conférences ou de congrès. Il a alors été décidé de créer un dictionnaire des signes pour les réunions internationales. Mais cette standardisation allait créer un problème, inventer une langue internationale. C'est un peu compliqué quand même. Et surtout, une langue internationale unique, ça semble créer une sorte de rapport de domination sur les autres langues des signes et pourrait les faire disparaître. Alors, les Scandinaves étaient déjà à l'œuvre, en fait, quand ce projet a été mis en place. Ils essayaient déjà d'harmoniser toutes les langues des signes des pays nordiques. Donc, un gros projet. Et peut-être que ce principe de langue des signes unique vous rappelle des souvenirs de lycée. Et c'est pas pour rien. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Inventer une langue des signes unique ? Ça vous rappelle un projet ?
On n'a pas été au lycée en même temps que toi, je crois, c'est peut-être pour ça.
Non, oui, c'est bon. Si. Peut-être que quand je vais vous le dire, vous allez vous dire « Ah, mais oui ». En fait, cette standardisation a la même base que l'espéranto.
Ah, j'aurais dit, vous vous souvenez quand Louis en a parlé dans une précédente émission ?
Oui, aussi, j'aurais dû faire ça. En fait, c'est l'idée d'une langue universelle. Bon, on sait aujourd'hui que ces idées sont carrément nulles et foireuses, pour être poli. Vouloir une humanité qui serait toute pareille avec la même culture et la même langue, ça pose clairement des questions de richesse culturelle et remet même en question le principe d'individualité des langues. Mais bon, en soi, on a vu pire. Et donc en 1975, le premier congrès intégrant cette langue des signes internationale a lieu. Elle est appelée GESTUNO, pour langue gestuelle internationale des sourds. Bon, ça ne correspond pas, mais c'est parce que c'était en anglais. Je vous la fais courte, ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que les personnes ayant appris cette langue n'avaient absolument aucune notion des signes de base et qu'elles n'ont eu qu'un an pour tout apprendre. Alors autant vous dire que c'est comme devenir bilingue en un an, on a beau être très doué en langue, c'est quasiment impossible. D'autant plus quand cette langue implique une gestuelle très précise. Une autre des raisons pour lesquelles GESTUNO a complètement foiré, c'est parce que ses créateurs n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils fichaient. Non seulement ils n'y connaissaient rien, mais en plus ils semblaient avoir du mépris pour ce qu'ils faisaient. Bref, le travail de groupe était déjà vraiment mal parti. L'une des conclusions du rapport est donc que, je cite, « la standardisation des signes à l'échelle internationale fut en fait une façon de nier la culture sourde ». Fin de citation. Donc c'est assez radical, mais tout le monde comprend. Ça semble maintenant évident que cette idée était vraiment pas bonne, mais on peut quand même se demander pourquoi avoir eu cette idée de base. Alors je sais qu'on a dit que certains malentendus et incompréhensions étaient créés à cause des multiples langues des signes, mais on a aussi soulevé le fait que les sourds faisaient en sorte de se comprendre entre eux, que malgré des signes différents, le sens restait souvent compréhensible. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que la langue des signes, peu importe le pays dans lequel on est, utilise une gestuelle assez large pour être comprise de tous. Contrairement aux langues orales, elles peuvent s'adapter et créer des gestes plus clairs et compréhensibles en fonction des interlocuteurs, comme l'a dit Asilis. Là, du coup, je rejoins un peu ce que tu as dit. Ils arrivent à s'adapter chacun les uns les autres. Mais il y a surtout un point crucial à comprendre et à mémoriser, c'est que la communauté sourde est en capacité d'assimiler très rapidement les signes étrangers et s'adapte bien plus vite que les entendants. Il y a aussi autre chose, c'est que les sourds mettent un point d'honneur à interagir avec le public international en face duquel il est. Et c'est tout simplement ça qui permet une compréhension universelle de plusieurs langues des signes dans un seul et même discours. J'ai découvert en fait que celui ou celle faisant un discours, face à une audience, choisissait un interlocuteur auquel il se référait pour être sûr des signes qu'il ou elle emploie, ou tout simplement pour décider juste collectivement d'un signe pour un terme qui a plusieurs interprétations. C'est ce qu'on peut appeler donc des signes internationaux, mais ils sont très différents de ceux qu'on retrouvait dans le dictionnaire Gestuno. Le locuteur s'adapte donc à son public et utilise un maximum de signes dans la langue la plus représentée au moment de son discours. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il ou elle utilise des signes de sa propre langue, des signes, mais ils seront en principe compréhensibles de tous. Et ça me paraît assez fascinant de voir cette capacité d'adaptation, parce que je veux dire, c'est clairement pas dans les réunions internationales en langue orale qu'on verra ça. Tout le monde a ses petites oreillettes avec un traducteur au bout du fil, et tout le monde se fiche bien de la compréhension des autres. Donc en fait, de l'aspect négatif de la sous-représentation des sourds et du trop peu de visibilité de leur langue est née une sorte de solidarité qu'on peut même pas espérer chez les entendants. Il est important de noter également que les LSI, donc les, bien évidemment, ne sont présentes que lors des situations impliquant la rencontre des sourds et de sourds de plusieurs nationalités. On ne peut pas dire qu'il y a donc une langue des signes internationale, mais des langues des signes internationales. Il en existe plusieurs, elles sont maniées et remaniées à chaque rencontre. Ce sont des langues qui évoluent avec le temps et en fonction des autres langues qu'elles rencontrent. Tout comme les langues parlées, elles sont en perpétuel changement et il est toutefois vrai que la structure grammaticale reste la même pour toutes les langues des signes. Et alors figurez-vous que ça peut se compliquer. Au sein d'un même pays, on peut avoir plusieurs langues des signes. Si on prend la Suisse par exemple, il y a 3 langues des signes. La langue des signes française, plus connue sous le nom de LSF comme on l'a dit, qui se pratique près de la frontière française bien évidemment. La langue des signes alémanique, près de l'Allemagne, utilisant des signes allemands. Et la langue des signes tessinoise, proche de la langue des signes italienne. En gros, c'est comme les dialectes ou les patois en France, il y en a beaucoup et chaque région a sa spécificité. Et accrochez-vous bien, parce qu'en France, on peut aller encore plus loin, un sourd marseillais ne signera pas de la même façon qu'un sourd parisien. Il y a des accents dans la langue des signes. On a bien compris que la langue des signes, peu importe du pays d'où elle vient, les langues des signes du moins, sont plus ou moins apprises ou représentées, en fonction de l'éducation, mais aussi des moyens mis en place pour les rendre plus visibles. D'un pays à l'autre, l'utilisation des langues des signes sera donc plus ou moins commune. Prenons la France, par exemple. Est-ce que vous avez déjà vu des concerts signés en France, vous deux ?
Pas en vrai.
Non.
Ouais, moi non plus. Bon, par contre, les discours et conférences officielles et présidentielles sont signés, a.k.a. le discours de 13h de Macron. Là, on a bien vu, hein, il était signé celui-là. La conclusion, c'est donc qu'il faut être président ou ministre pour être compris de tous. Non, je rigole. Mais...
je crois qu'on a bien compris.
Non, mais en comparaison, si on prend les États-Unis, je pense que beaucoup d'entre vous vont voir de quoi je parle si vous ne vivez pas dans une grotte et que vous avez Internet. Vous connaissez sûrement le Super Bowl, rendez-vous immanquable du football américain qui se déroule chaque année. Vous connaissez tous Lifetime Show, vous savez, le mini-concert qui fait plus de bruit que le match en lui-même et qui fait la une de tous les journaux 6 mois avant l'événement. Bon bref, c'était Rihanna qui était la star de cette année. Oui, la Queen est revenue. Mais on n'a pas remarqué qu'elle pendant sa performance. Et non, il y avait une autre star à ses côtés. Enfin, en tout cas, à ses côtés sur l'écran. La jeune interprète d'ASL, Justina Miles, autrement dit l'interprète d'American Sign Language, la langue des signes américaine. Alors, je vous invite à aller voir les vidéos de la performance parce qu'elle est quand même assez impressionnante. Elle fait limite plus le show qu'elle-même. Et c'était la première fois que le show était traduit en ASL, mais ce n'est pas la première fois qu'un concert l'est. Vous avez dû voir de multiples vidéos sur la toile, de concerts comme celui de Megan Thee Stallion qui a fait traduire ses performances en ASL. Bref, cette comparaison France-États-Unis illustre assez bien où on en est rendu avec les langues des signes. C'est très inégal d'un pays à un autre. Et la situation change en fonction de chaque pays. Doucement, mais sûrement, les langues des signes se démocratisent et j'espère que les nouvelles générations continueront à se battre pour les sourds.
Merci Morgane. Nous allons maintenant passer à notre dernière pause musicale avec Shout Tears for Fears.
Langue de prune.
Alors maintenant pour vous, ça va être l'heure du dessert. Et pour nous, c'est l'heure du goûter. Du goûter et aussi d'ici et d'ailleurs. Et donc je vais vous parler d'une pâtisserie.
D'ici et d'ailleurs.
Alors maintenant, ça date un peu. Mais lorsqu'on avait commencé à préparer l'émission... La Chandeleur était encore proche et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler des Botreaux. Ça rappellera peut-être des souvenirs d'enfance à certaines. Donc c'est un beignet en forme de losange, c'est mangé partout en France. Mais en fait, si je vous en parle aujourd'hui, vous le devinez bien, c'est parce qu'on n'appelle pas ça de la même façon partout. Alors on va faire un petit tour de l'hexagone et Je le précise quand même, en fait, la liste est très longue et c'est assez difficile de faire des recherches parce qu'il va tout le temps y avoir des petites différences dans les recettes. Donc, à partir de quel moment est-ce que c'est la même chose, mais juste on le fait un peu différemment parce que c'est l'autre côté de la France et on appelle ça différemment. Et voilà. Mais là, normalement, ceux que j'ai sélectionnés, ça ressemble vraiment à nos Beautrot. Donc, les Beautrot, c'est une appellation surtout qu'on va utiliser dans le pays nantais, en Bretagne. Et après, si on descend un peu, par exemple, en Vendée ou dans le Poitou, on va appeler ça aussi les foutimaçons. En Champagne, ça va s'appeler les faverolles. Et dans le sud-ouest, on va appeler ça les merveilles. Et eux, ils vont faire généralement un petit trou au milieu, une petite bande comme ça. En Alsace, surtout en Alsace, après un peu aussi apparemment dans le centre en Île-de-France, on va appeler ça les roussettes, ce que je trouve assez drôle.
Comme le... Il y a un poisson. Il y a un poisson qui s'appelle... Non, les roussettes, c'est une sorte d'araignée de mer, je crois.
Ah, peut-être, voilà. peut-être, mais...
Sur écoute, inutile.
Ils n'ont pas beaucoup d'araignées de mer en Alsace, donc je pense que c'est pour ça que, que le double emploi est possible. Autour de Lyon, on va dire les bugnes, c'est d'ailleurs un des termes qui revient le plus souvent quand on cherche cette pâtisserie-là. Et après, en Anjou, un nom que j'aime beaucoup, les croquignoles.
Oh, c'est trop mignon.
Oui.
On dirait des petites croquettes.
C'est ça. Après aussi, en Franche-Comté, il y en a un, alors justement, qui rentre dans la catégorie où c'est un peu différent. Parce que là, c'est rond, il y a une pâte qui est un peu plus proche de la pâte de chou, mais il fallait que je vous le cite parce que le nom est juste trop drôle. Est-ce que vous avez une idée?
Attends, c'est où déjà?
En Franche-Comté.
Non. C'est comme des Beautrot, tu as dit?
Bah,
c'est une, plus c'est rond. Une pâte baignée.
C'est rond, ouais.
Des crottes.
Des pâtes. Très loin.
Des caca, des...
Non.
Des crotounettes, des crapounettes.
Des paix de nonne.
Ah mais oui, en plus je connais. Paix de nonne.
C'est, oui. Donc voilà, comme je vous disais, pour trouver toute cette liste, j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de vérifications sur beaucoup de recettes que j'ai pu trouver en ligne. Et là maintenant, j'ai toutes les images en tête, ça me donne faim.
Est-ce que tu as fait des vérifications? Est-ce que tu as testé les recettes?
Non, mais ça va venir, là.
J'espère que je serai associée.
J'espère que tu m'en ramèneras aussi, parce que bon, j'aime ça, les Beautrot.
La prochaine émission, je ramènerai un petit superbeurre avec des Beautrot.
Yes.
Voilà, je me suis engagée maintenant. Tout le monde, toute la France m'a entendu.
Là, c'est bon, hein, t'as juré à l'antenne. Hein.
Alors, du coup... En plus des pâtisseries, on vous a parlé pendant cette émission de la langue des signes. C'était un sujet qui était important pour nous parce que c'est aussi, comme on l'a dit, en fait une culture. C'est aussi une culture, c'est aussi en fait l'histoire de l'exclusion des personnes qui sont en situation de handicap, il ne faut pas l'oublier. Quand j'ai parlé un peu du côté histoire, je vous ai bien précisé qu'on faisait des conférences, etc. et qu'ils étaient exclus en fait, des sujets qui les concernaient directement. Forcément, c'est quelque chose qu'on va retrouver en dehors, on va dire, de la langue, mais qui va s'appliquer en fait à toutes les personnes en situation de handicap. On pense par exemple à tout ce qui va être un parallèle, par exemple, que moi j'ai fait en lisant cette partie-là, tout ce qui va être les associations pour les personnes autistes qui, généralement, en fait, vont pas avoir de personnes autistes ou que ce soit, dans tout ce qui va être la direction, les personnes qui prennent des décisions. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment légitime de faire des choses après, derrière, si on exclut totalement les personnes concernées. Est-ce qu'il y a des petits points que vous vouliez aussi évoquer suite à ce que vous avez vu?
Ce que je trouve un peu différent du handicap de manière générale, c'est que là, c'est plus une identité que d'autres choses, je trouve, quand tu parlais de la culture sourde. Et le choix de langue qui est fait pour les enfants sourds, ça va vraiment avoir un gros impact sur l'identité. Je pense qu'une fois, j'avais rencontré en manif une fille qui était sourde et elle, du coup, ses parents avaient fait le choix qu'elle soit... élevée, qu'elle apprenne à parler et donc du coup, enfin que voilà, qu'elle apprenne pas la langue des signes française. Elle connaissait quelques signes, mais voilà, c'était pas du tout sa langue maternelle. Et donc du coup, elle, ce qu'elle avait appris, c'était à lire sur les lèvres et la langue française parlée complétée. En fait, c'est des signes qu'on va ajouter quand on parle. Parce que les mouvements des lèvres, il y en a qui vont être les mêmes mouvements, mais ça va pas donner les mêmes sons. Donc avec ça, ça permet d'être sûr de ce que la personne dit. Donc pendant sa scolarité, elle avait quelqu'un qui l'accompagnait comme ça. Et donc là, je pouvais vraiment en discuter avec elle. J'oubliais un peu qu'elle était sourde et du coup, elle était hyper intégrée à la communauté entendante. Mais elle m'expliquait que du coup, elle était hyper isolée de la communauté sourde parce que c'était des difficultés d'échange et un peu un côté un peu trahison quoi.
Ça, ce que tu dis, c'est pas drôle, mais c'est que j'ai rencontré l'autre jour, j'étais à la salle le soir, et puis là j'ai rencontré deux personnes sourdes. Alors vraiment, j'ai même failli leur demander si elles voulaient venir dans l'émission, quoi. Je me suis dit, c'est le moment. Plus sérieusement, il y en avait elles étaient deux, et l'une d'elles, je pense, comprenait ce que je disais en lisant sur mes lèvres, et l'autre, pouvaient parler, en fait. Et du coup, toutes les deux se complétaient. Et c'est vrai qu'à un moment, je leur expliquais un exercice. Et c'était compliqué. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point je me sentais vraiment nulle et mal de ne pas pouvoir communiquer simplement avec elles, en fait. C'est là qu'on c'est dans ce genre de moment qu'on se dit, mais en fait, c'est pas... Parce que pas communiquer avec un étranger... on peut toujours réussir à communiquer puisqu'il y a toujours des moyens, on signe, on se comprend. Mais je trouve, avec les malentendants et avec les sourds, c'est à nous de nous adapter. C'est un travail qui va dans les deux sens. Il faut que nous, on s'adapte aussi. Alors, c'est vrai que j'essayais de leur signer des trucs, mais je pense que j'avais l'air ridicule. Un clown vraiment qui faisait des signes, quoi. Enfin, c'était... Et du coup, je me disais, Morgane, t'as l'air ridicule. Mais je continuais de m'enfoncer dans ce truc en mode, je vais essayer de leur expliquer en signant. Bon, au final, on s'est compris. Elles étaient absolument trop choupettes et elles étaient super mignonnes. Et elles ont tout fait pour me comprendre. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose de tout bête à faire. Mais peut-être faire dans des cours, même au collège, de base de LSF. Peut-être que ce serait intéressant de le faire, je sais pas moi, même des bases comme bonjour, je m'appelle, merci, même si on peut pas entièrement apprendre cette langue, ça reste une langue à part entière, comme on apprend l'anglais en fait. Donc
oui, après, de manière réaliste, hein, par exemple, j'ai fait l'espagnol, la plupart des gens, ils oublient assez vite par exemple leur LV2 s'ils ont pas d'occasion de la pratiquer. Donc oui. Je pense que là, en vrai, la plupart des gens, ils se souviendraient plus trop une fois qu'ils sont adultes et tout, mais c'est vrai que ça pourrait être plus accessible comme
oui c'est sûr déjà, parce qu'il y a pas
comme
de prof.
Étude possible on va dire parce que bon
et c'est vrai que enfin tout le monde apprend l'anglais c'est limite imposé quoi enfin c'est un truc en fait c'est fou parce que là c'est comme une langue qui est parlée par beaucoup de gens dans d'autres pays et le fait que c'est aussi un peu aussi peu d'importance c'est comme le fait que c'est un peu différent mais je pense à l'arabe par exemple qui est parlé par énormément de gens dans le pays et pourtant c'est pas du tout la première LV2 quoi
ouais.
Et sur le côté apprentissage même quand on est adulte il y a des ateliers qui se font à Nantes je connais pas du tout tous les trucs mais je sais que par exemple il y en a au Chat Noir tous les mercredis à 18h30 qui sont faits souvent par des personnes sourdes il y a un entendant qui fait aussi des fois et qui sont vraiment pas mal et on peut arriver et ne rien connaître et on peut suivre quand même.
Merci pour ce rendez-vous.
Bon, du coup, avec ce rendez-vous, hein, comme pour reprendre ton mot, je pense qu'on a fait le tour du sujet. On va vous dire au revoir et vous laisser du coup regarder les recettes de Botreau en ligne pour en faire.
Et nous en ramener.
Oui, n'hésitez pas.
Vous avez un mois pour vous entraîner. On vous retrouve du coup encore à midi, le dernier mardi d'avril. Avril déjà, l'année avance vite. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
À plus dans le bus,
à plus tard dans le car,
à bientôt dans le métro,
à mardi dans le taxi,
à très vite
dans le cockpit.